Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous et bon dimanche et bienvenue surtout sur RMC pour la route du Tour de France aujourd'hui. Cette étape qui va nous conduire d'Aigle jusqu'à Châtel, les portes du soleil. Et effectivement, le soleil est une nouvelle fois au rendez-vous sur les routes de cette 9e étape du Tour de France. 192 900 km à parcourir pour les coureurs qui se trouvent actuellement au bord du lac Léman et qui vont faire un petit tour en Suisse tout à l'heure avant de franchir la frontière et d'arriver aux alentours de 17h30 sur la ligne ici à Châtel. C'est une étape importante puisqu'elle marque l'entrée dans les Alpes avec une succession de cols, des cols de 4e catégorie suivis de cols de 2e et de 1ère catégorie. On devrait se régaler aujourd'hui si tout va bien. Toute l'équipe est évidemment au rendez-vous cet après-midi. Cyril Guimard qui a du mal à faire marcher son téléphone depuis ce matin. Il est désespéré. Ben oui, on est passé en Suisse. Il n'a pas voulu mettre ses données à l'étranger. Du coup, il n'a aucune donnée. Il est complètement paumé. Ça va, mon druide ?
Ben, ça va, sauf que c'est pas de ma responsabilité. C'est le Wi-Fi qui ne marche pas.
Ah, c'est le Wi-Fi qui ne marche pas.
D'ailleurs, je crois que je suis pas le seul.
Ah, moi, tout marche, nickel.
Ah bon, ben alors, écoute, passe-moi ta tablette.
Tu n'es pas un geek, à la différence de Jérôme Coppel, qui lui maîtrise parfaitement l'informatique et les moyens futuriste.
Salut Christophe, au moyen futuriste, je sais pas. Ouais, ça va très bien. Je suis très content d'être à Châtel. Hein, tu sais que je suis originaire vraiment juste à côté des Gets. Hein. Les Coppel, ça vient des Gets. Donc juste l'autre côté, l'autre versant de la montagne.
Les Gets, Morzine, Avoriaz, on est dans le domaine skiable des Portes du Soleil et c'est évidemment l'un des plus beaux de France. Hein, magnifique.
Ouais, un des plus beaux, des plus grands.
On peut en plus se balader à ski dans les petits villages suisses puisqu'on peut franchir la frontière. C'est
tout
vrai.
À fait.
C'est très sympa ici de venir faire du ski dans cette région. Le ski, c'est pas son truc, la natation non plus, heureusement.
Le vélo non plus. Ah,
mais la course à pied. Alors ce matin, hier soir, il me dit je vais faire un footing demain matin. Et ben ce matin, je l'ai trouvé au petit déjeuner derrière de grosses tartines, Pierre-Yves Leroux.
Et oui, obligé de travailler avec beaucoup d'informations sur la route du Tour aujourd'hui, des abandons, etc. Donc,
je vous ai pas trop vu à 7h du matin.
Pour courir, mon cher Christophe. Châtel, pour moi, c'est Émilie Joly, Philippe Châtel, ouais. Surtout, tu vois.
Ouais, d'accord.
Je ne connais rien au vélo, donc je ne savais pas qu'il y avait, des étapes qui arrivaient à Châtel. Voilà.
Et Arnaud Souk, évidemment, qui lui aussi est avec nous. Il est avec Marco. Hein. On ne peut pas les séparer tous les deux. C'est un vrai petit couple. Je ne sais pas comment ils vont faire au mois d'août quand ils vont être séparés. Peut-être qu'ils vont partir en vacances ensemble. Ça va, les garçons ?
Salut les amis, bah écoute, ça va très bien, c'est la balade des gens heureux ce matin. Là, il fait un soleil absolument magnifique, on vient de croiser un deux-mâts sur le lac Léman. Vraiment carte postale exceptionnelle et nous sommes à Montreux précisément. On aurait pu mettre la musique Bicycle de Freddie Mercury puisque peut-être vous le savez, il y a un hommage qui est rendu à l'ancien chanteur de Queen ici qui avait passé une partie de la fin de sa vie, Freddie Mercury, donc ce grand artiste. Vous pouvez la mettre peut-être Bicycle, vous l'avez en stock,
bicycle,
non, vous l'avez pas.
Bicycle, I want to ride my bicycle,
Le problème d'Arnaud, c'est qu'il a toujours un petit délai,
les gars.
Il chante pas en même temps que nous et il trouve pas les réponses en même temps que nous pour les yeux non plus.
En fait, c'était un peu fait exprès, c'était pour vous montrer.
C'est vrai qu'il y a un petit décalage. Voilà. Ah, écoutez ça, c'est magnifique. Nous aussi, on veut rider nos bicycles avec les coureurs du Tour de France, Freddie Mercury, donc Montreux, qui est aussi un festival de jazz mondialement connu, Pierre-Yves. Hein.
Oui, magnifique. Depuis des années. Et je pense que c'est en ce moment, apparemment, hein, ça doit être.
Oui, parce que le parking était plein hier quand on a voulu aller à Montreux.
Et on a continué. Rendez-vous du jazz, évidemment. Rendez-vous international pour les amateurs.
Très bien. 174 km encore à parcourir. On va faire un petit point sur la course et ensuite on va revenir sur les événements du matin parce que vous le savez peut-être, eh bien, plusieurs coureurs sont non partants aujourd'hui, dont Guillaume Martin, l'un des Français les mieux placés au classement général, victime du Covid et qui a donc été exfiltré du Tour de France et qui a quitté la route à regret. On l'entendra puisque sa communication et sa réaction nous a été envoyée par la formation Cofidis. Tout de suite, le premier top course de cette étape d'entrée dans les Alpes. Et le top course est avec Pierre.
Et oui, tu évoquais Guillaume Martin, et bien c'est la première fois qu'il est obligé de quitter un grand tour. 8 participations, il n'avait jamais abandonné encore, et malheureusement pour lui. Donc c'est pour cette raison, le Covid. Les coureurs sont partis tout à l'heure de Aigle et ils sont en route désormais, même si ça va être long pour l'arrivée ici à Châtel. 173 km encore à parcourir. La bonne échappée est peut-être pas encore sortie parce qu'il y a très peu d'avance pour l'instant pour le petit groupe là qui est devant. Ils sont une dizaine avec notamment Boke Mollema qu'on aperçoit, ou encore Mathis Louvel, le français, Alberto Bettiol aussi souvent dans les accélérations. Anthony Turgis est là également, Yves Lampart, voilà, mais ils n'ont qu'une poignée de secondes sur l'avant du peloton. Rien n'est fait pour le moment.
Voilà, ça bagarre sévère, hein, Jérôme, depuis le départ de cette étape tout à l'heure du côté de Aigle. C'est une étape de montagne, mais on le sait aussi, c'est peut-être pas la plus dure et peut-être pas la plus prestigieuse. Et on ne sait pas si les leaders du classement général vont véritablement livrer bataille aujourd'hui ou si on va avoir justement une échappée au long cours qui peut s'installer. Mais on le voit, ça a du mal à sortir.
Exactement, c'est une mise en bouche, hein, cette première étape de montagne. Mais il n'y a pas encore une échappée qui a été au bout, donc tous les coureurs veulent essayer de se glisser dedans. Ils pensent comme nous, hein, qu'une échappée peut aller se disputer la victoire, que les favoris au classement général peut-être vont se castagner un petit peu dans le pas de Morgin éventuellement, mais il y aura certainement deux courses en une, donc une pour la victoire d'étape et une peut-être pour les favoris au classement général. Mais voilà, grosse castagne quand ça part pas tout de suite, hein, dès le baisser du drapeau de Christian Prudhomme. En général ça castagne au moins une heure, donc on est parti pour ça. Et il y a beaucoup de coureurs qui tentent leur chance, mais chaque fois il y a des équipes non représentées, ça relance derrière, résultat tout se regroupe et il faut repartir à zéro à chaque fois.
Voilà, et on laisse beaucoup de plumes dans la bataille, Cyril, lorsqu'on tente de sortir comme ça. On a vu hier notamment Thibaut Pinot essayer de sortir et puis au bout d'un moment il n'a pas pu le faire et il était cuit aux patates, hein.
Oui, alors bon, sur ce type de départ, l'important c'est d'être dans la bonne. Donc effectivement, on essaye de sauter en espérant de sauter dans le bon coup qui va partir. Mais comme de toute façon, si on essaye de partir, ça veut dire que on ne peut pas aller à la gagne, à la pédale avec les premiers, avec les costauds du Tour de France. Donc on joue au poker, on va sur un coup, deux coups, trois coups. Et s'il y en a un qui part, et bien tant mieux. Et s'il part pas, on va finir avec mal aux jambes jusqu'à l'arrivée.
Le peloton est à Vevey, la ville de Pascal Richard, et on précise
Vevey.
Excuse-moi, ça y est, il va toute l'après-midi, je pense qu'il va nous reprendre.
Le Suisse.
Je suis quand même marié à Vevey. Quand même, je dois savoir le prononcer.
Ah oui, c'est vrai. Tu t'es marié à Vevey. Très bien. On le note.
En plus, il est passé à la maison hier soir.
Okay. Ouais,
exactement. Il est un peu fatigué aujourd'hui, je crois.
Petits yeux quand même, non ? Non. J'ai bien dormi, ouais. Matin. Exactement. Ouais. Exactement. J'ai été courir 12 km.
Oh, le menteur, c'est pas possible de mentir pareil.
On a parlé de Guillaume Martin, oui. On précise quand même que Casper Asgreen et Ruben Guerrero ne sont pas partis. Il y a une chute à l'instant. Oula. Sur un rond-point. Tony Galopin présent dans cette chute. Grosschattner est là également dans ce rond-point, pas trop de mal, ça va repartir.
Bisseger aussi.
Bisseger qui était en tête tout à l'heure de peloton.
Bisseger qui a été premier à chuter sur les routes du Tour de France quand même cette année, on le rappelle, oui. Sur le chrono inaugural à Koolapenem. Deux gamelles quand même, lui qui était l'un des favoris du contre-la-montre. Qu'est-ce qui s'est passé?
Sur la droite de la route, c'est pas à l'intérieur du rond-point, c'est à l'extérieur du rond-point. Mais... voilà, c'est tendu, on le savait.
Et puis Christophe Moreau également avec nous aujourd'hui. Il était bien avec nous avant-hier. Il a décidé de prolonger l'expérience avec RMC. On s'en félicite. Christophe, quatrième du Tour de France, maillot jaune, vainqueur d'étape, champion de France et aujourd'hui manager de la formation, pour l'instant amateur et bientôt professionnel, Philippe Wagner Cycling. Ça va mon Christophe ?
Magnifiquement bien.
Bon, toi t'es plus régional de l'étape, mais t'es pas loin. Tu connais un peu ces terres quand même, hein ?
Ouais, on reste dans la Romandie, quoi, comme on dit.
Voilà. Oui, parce que tu habites en Suisse, donc tu es un peu un régional de l'étape comme Jérôme.
Bien évidemment, on a des connaissances plus particulières sur la Romandie, sur des coins aussi qu'on a connus par le passé, à travers le Tour de France qui est passé dans l'autre sens en 97, il y a quelques années en arrière.
Exactement, c'est vrai que les terres suisses, les terres helvétiques, Jérôme, sont parfaites pour pratiquer le vélo, avec d'un côté des montagnes un peu douces au-dessus de Lausanne, et puis si on fait de l'autre côté du lac, là c'est plus sévère, et c'est ce qui va se passer notamment aujourd'hui. On va on va accumuler les deux finalement.
Tout à fait, voilà, ils vont faire un peu des deux versants, des montées pas trop longues, pas trop dures, et on va commencer l'école un petit peu plus long, 13 km, 15 km, quasiment 16 même pour le pas de Morgin. Donc voilà, on commence à rentrer dans les choses sérieuses, petite mise en bouche avant les grosses étapes qui commenceront mardi, vraiment les vraies grosses étapes de montagne.
D'accord. Bon, la bagarre pour le classement général, tu y crois aujourd'hui, vous y croyez aujourd'hui, Christophe, Cyril, Jérôme?
Peut-être une petite castagne dans le pas de Morgin. Moi, je pensais éventuellement à Roglic, par exemple, qui pourrait essayer de se rapprocher un petit peu, tenter quelque chose vers la fin du pas de Morgin. Petite descente. On a vu le final qui est quand même pas facile, hein. Les deux, trois derniers kilomètres, c'est pas tout plat. Pourquoi pas tenter à rapprocher après entre Vingegaard et Pogacar? J'y crois beaucoup moins, par contre.
D'accord. Donc, les outsiders qui pourraient essayer de faire un rapproché au classement général. Christophe, ça te semble un bon scénario?
Oui, oui, mais il y a quand même matière à faire péter le bordel, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même pointu au pied, c'est quand même près de 16 kilomètres. Et puis, on a quand même un vent arrière sur ces 3-4 derniers kilomètres où qui vont amener de la vitesse avec un enrobé parfaitement lisse. C'est clair qu'il y a ce qu'il faut maintenant. C'est les coureurs qui font la course. C'est toujours pareil.
Voilà. Et puis, est-ce que Pogacar, qui est un peu glouton en termes de victoire d'étape, va laisser les outsiders se rapprocher au général? C'est pas le genre de la maison, Cyril, hein.
Non, il a pas intérêt d'ailleurs à le faire. Là, on a pu remarquer que sur les quatre dernières étapes, sur chaque étape, il a repris du temps à ses adversaires au travers des bonifs. Donc aujourd'hui, il peut très bien aussi contrôler la course comme il l'a fait hier et faire le sprint ici à l'arrivée pour essayer d'aller chercher des bonifications, sauf si bien sûr une échappée pouvait prendre corps dès maintenant. Ce qui ne semble d'ailleurs pas être le cas. Tout le monde voulant prendre effectivement l'échappée du jour.
Ouais, toujours pas fait, hein. C'est toujours pas fait. On va faire un petit top course avec toi, Pierre-Yves, pour savoir où on en est justement à 168 km de l'arrivée. Ça castagne sec en tête de peloton.
Oui, et il y a eu des effets à la chute, notamment pour Michael Woods, qu'on a vu avec le maillot déchiré, des garçons de IF Education aussi qui étaient retardés, et notamment Nelson Paules qui avait touché du doigt le maillot jaune il y a quelques jours, un maillot qu'il ne portera sans doute pas sur cette édition du Tour de France. Une échappée qui a beaucoup de mal à se faire, effectivement. Trois groupes pour le moment et un Pierre Roland qui est toujours un peu en difficulté à l'arrière du peloton.
RMC Intégral Tour.
13h15, vous êtes sur RMC, vous le savez, le dimanche on prend dès 13h pendant votre repas dominical, et on va essayer de vous régaler aujourd'hui avec cette étape du Tour de France. Alors, régalade peut-être pour certains, mais soupe à la grimace pour d'autres. C'est le cas, donc, on vous le disait, de Guillaume Martin, le leader de la formation Cofidis, qui était bien placé au classement général et qui se sentait de mieux en mieux, et qui, eh bien, ce matin a donc eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'il était positif au Covid, un petit mal de gorge qu'il a contraint au test, et ce test s'est révélé positif. On va écouter tout de suite la réaction de Guillaume Martin, évidemment très déçu de quitter la route du Tour de France.
J'avais plutôt envie d'être à Aigle avec un dossard sur le dos. Finalement, je vais devoir rentrer à la maison parce qu'un test Covid s'est révélé positif. C'est assez frustrant dans la mesure où j'ai pas de symptômes, je me sens bien, et preuve en est mes performances sur les deux derniers jours, les deux dernières étapes. Donc je sentais même que je montais en pression physiquement et qu'il y avait des belles choses à faire sur la suite de ce tour, sur des étapes qui me convenaient le mieux. Donc c'est évidemment très frustrant, mais après j'en prends mon parti. Tout allait bien jusque là, j'avais évité les chutes, toute cette première semaine de tour qui était la plus désagréable pour moi. Donc j'arrivais enfin sur un terrain où je savais que j'allais me faire plaisir, et puis donc la situation actuelle en a décidé autrement. Après je ne peux pas y faire grand chose. J'ai essayé, on a essayé avec l'équipe de voir ce qui était envisageable pour continuer jusqu'au dernier moment. Moi j'ai eu un peu d'espoir, mais la raison voulait que je reparte pas aujourd'hui.
Guillaume Martin, forcément très déçu, c'est terrible, Jérôme, quand on prépare toute l'année ou presque ce grand rendez-vous, de sentir qu'on est plutôt les jambes et que la forme est en train de revenir petit à petit, et là, alors qu'il a l'air plutôt en bonne forme, hein, un petit mal de gorge, et bien être obligé de quitter, d'abandonner, comme s'il avait chuté lourdement sur les routes du Tour de France.
C'est ça le pire, c'est d'avoir aucun symptôme ou très peu finalement, et de devoir quitter le Tour après des mois et des mois de préparation. C'est ça qui est le plus frustrant. Si vous êtes vraiment malade, une bonne bronchite, de la fièvre, etc., ou une gastro, je sais pas, voilà, vous quittez le Tour, bon, vous savez que de toute façon ça aurait été difficile de terminer les étapes. Là, il a rien. On a vu encore hier avec son attaque dans le dernier kilomètre qu'il avait les bonnes jambes. Il le dit lui-même, il montait en puissance. C'est terrible pour lui, c'est terrible pour sa formation Cofidis. Il était 14e au classement général. Il avait de l'ambition pour rentrer dans le top 10, voire mieux. Voilà, gros coup dur, et on n'est pas encore à l'abri d'autres surprises, d'autres mauvaises surprises.
Ouais, on n'est pas au bout de nos peines, parce que demain, donc, Pierre-Yves, tout le peloton va être testé. Les tests qui vont commencer ce soir. Là, ce sont des tests volontairement faits par les équipes, en interne. Mais là, il y a une obligation. Donc, les résultats, ils les donnent ou ils ne les donnent pas. Oui. Ils excluent de la course ou non leurs coureurs. Mais là, ça va être une autre dimension. Hein.
Oui, effectivement, ces tests obligatoires. Donc, il faut que tout le monde passe entre les gouttes, parce que sinon, eh bien, il y aura ce fameux collège de trois médecins qui prendra une décision suivant l'évolution de la maladie, si vous êtes positif, c'est-à-dire si vous avez une charge virale qui est en augmentation ou pas, avec éventuellement un test et un contre-test plus tard, au bout de quelques heures, pour voir si ça augmente ou si ça descend plutôt, et éventuellement pouvoir rester dans le peloton. Mais forcément, dans toutes les équipes, on s'inquiète pas mal depuis les deux nouveaux cas, en fait, d'hier matin.
Ouais, alors, ce qui est étonnant quand même, c'est que Guillaume Martin est contrôlé positif au Covid. Ses symptômes ont l'air quand même plutôt très légers. Or, l'UCI avait quand même changé les règlements en début de Tour de France, en expliquant que certains coureurs qui ne présentaient pas de gros symptômes et une charge virale assez basse pourraient continuer à faire le Tour. Christophe, on se rend compte finalement, alors on ne sait pas exactement quelle est la charge virale de Guillaume Martin, mais voilà, il est viré du Tour comme avant finalement, hein, ça ne change pas grand-chose. Sauf que son équipe reste encore sur le Tour de France.
Oui, voilà, c'est encore toute une grande différence de pouvoir garder le collectif. Néanmoins, c'est vrai que sur les charges virales, il y a quand même de façon très subjective des choix qui vont être faits, et puis à quelle hauteur et de quelle façon, parce que malgré tout, c'est un coureur dehors, et comme l'a très bien expliqué Jérôme, c'est quand même des enjeux catastrophiques pour les partenaires, pour son équipe et pour lui-même par ailleurs. Donc il va falloir quand même que décisions soient prises, évidemment, en tant que telles, mais derrière, il y aura toujours des conséquences et du mal qui sera consommé. Néanmoins, est-ce qu'on aura véritablement besoin encore de dilapider le peloton du Tour? Jusque quand, comment et à quel...
On rappelle que le Tour de Suisse, c'était quand même 40 coureurs qui ont été...
Imaginez un peu.
Oui, mais alors, Tour de Suisse...
Pas que des positifs.
Voilà, souvent, il y avait un coureur positif et l'équipe se retirait d'elle-même.
En vue du Tour de France.
En vue du Tour de France. Voilà, c'était pas imposé par l'organisateur ou par l'UCI. C'était un choix des équipes de dire, OK, le Tour de France est dans deux semaines, on prend aucun risque. Hop, on rentre tous à la maison. Et au moins, on sera, entre guillemets, plus tranquille pour le Tour de France. On voit que c'est pas le cas. Hein. Et on sait que les équipes, même si c'est pas la bulle sanitaire comme on a pu connaître en 2020, elles prennent quand même énormément de précautions. On a parlé de UAE qui ont un coureur par chambre avec un soigneur par chambre. Et malheureusement, ils n'ont pas été à l'abri non plus, parce que Langen hier a été contrôlé positif au Covid. Donc, quoi faire pour éviter ces cas positifs? Il n'y a rien à faire, malheureusement. Si on le savait, le Covid n'existerait plus.
Cyril, si demain, la formation UAE apprend que son leader, le maillot jaune du Tour de France, est positif, que penses-tu qu'il va se passer? Est-ce que tu penses qu'il va quitter le Tour de France, comme les cyclistes lambda sont obligés de le faire depuis hier? Ou est-ce qu'il bénéficiera d'un traitement de faveur?
Oui, on peut toujours se poser la question en disant, bon, les stars seront plus protégées, peut-être, que les petits coureurs, je ne sais pas. Ce qui serait quand même intéressant, parce qu'il y a beaucoup de modifications des protocoles, il y a beaucoup d'interprétations aussi, c'est que ce serait bien qu'on ait un texte très précis sur le protocole mis en place aujourd'hui. Pour l'instant, pour moi, dans ma tête, ça reste quand même très flou. Et si demain, Pogacar, voire ce soir, était positif, est-ce que, par exemple, son équipe doit se retirer réglementairement par rapport à un protocole défini entre les...
Non, son équipe, non.
Bon.
Non.
Alors, ça, on le sait. C'est écrit noir sur blanc.
Mais une équipe peut décider, effectivement, s'ils ont un coureur positif, de retirer tout le monde, bien qu'on soit sur le Tour de France. Enfin, pour moi, tout ça reste un petit peu flou, dans la mesure où on le dit, on le répète, on ne sait même pas comment le virus se propage, puisque les équipes qui se protègent le plus, en règle générale, sont celles qui sont piégées.
Non, mais le seul flou, éventuellement, c'est sur cette décision, une fois que le coureur est positif, de savoir à quel moment, dans quelle partie du virus il est. Est-ce qu'il est en montée ou en descente? Là, ce sont les trois médecins qui vont décider. Voilà, c'est ce collège de médecins. Le reste n'est pas flou, finalement, Cyril.
Si, enfin, pour moi, tout est flou. Hein. C'est ouais, désolé.
Est-ce que le coureur est encore contagieux ou pas? Parce que les équipes, comme l'organisateur du Tour, ce qu'ils ont peur, c'est d'un cluster. Vous avez un coureur, même par exemple Guillaume Martin, qui est positif, mais sans symptômes. Imaginez, dans 3 jours, c'est toute l'équipe qui est touchée. Bah là, c'est toute l'équipe qui est à la maison. Donc les équipes ne veulent pas prendre de risques. Ils en ont un de positif avec une charge virale qui augmente, hop, ils rentrent à la maison.
Ah, mais quand tu perds ton leader, évidemment, pour terrible. La formation Cofidis, c'est pas la même. Hein. Un coureur lambda, ça comprend, mais.
Deux leaders.
Deux.
Et Coquart.
Et Coquart avant le début du tour, tu as raison, j'ai oublié de le dire. Oui, le leader pour le général, le leader pour les sprints. Et ben voilà, la formation Cofidis bien bien triste. On essaiera tout à l'heure de joindre Cédric Vasseur, le patron de la formation Cofidis, justement, pour qu'il nous parle de son Tour de France qui prend des allures très compliquées. 13h23 sur RMC, un petit top course avant de partir en pub dans un instant. Le top course est tout de suite et c'est avec Pierre.
Eh bien, on a toujours du mal à prendre du champ. Ça va très très vite à l'avant de la course, mais pas d'échappée pour le moment. On avance tranquillement le long du lac en direction de Châtel, arrivée du jour dans 160 km.
Merci Pierre-Yves. 13h24, on revient dans un instant sur la route du Tour. 160 km encore et ça va monter, ça va descendre sous le soleil et sous les applaudissements de la foule en Suisse. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Le peloton du Tour de France qui est toujours en Suisse aujourd'hui et qui va refranchir la frontière française tout à l'heure, juste avant l'arrivée, située à Châtel, dans le domaine des Portes du Soleil. Nous sommes en Haute-Savoie, magnifique département, c'est pas Jérôme Coppel qui va me contredire. 192 900 km donc à parcourir, il en reste encore 158. On attaque les premières petites côtes de la journée. C'est une sorte de mise en bouche, mon cher Pierre-Yves, pour l'instant. Hein.
Oui, une petite mise en bouche dans la côte de Bellevue avec ses vignes, cet arôme de tilleul, cette belle minéralité, hein, avec ce calcaire, le fendant, ah, c'est bon vin. Et Arnaud, il est là au milieu des vignes, il se régale à 2 km 200 de l'arrivée de cette côte, du sommet de cette côte, parce que pour l'arrivée, ça sera plus tard. Le paysage est magnifique, alors que le peloton, pour l'instant, est groupé. Arnaud, c'est un régal, hein, ce paysage, avec le lac et les vignes.
Ah ben là, le nom de Côte de Bellevue n'est pas galvaudé. Vue plongeante sur le lac Léman, ses eaux turquoises baignées de soleil. Il y a des voiliers, il y a des deux mâts. Bon, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique aujourd'hui. Le début de cette étape, donc sur les contreforts, on va dire, qui montent au-dessus du lac Léman. Et tu l'as dit, effectivement, c'est également une terre de vin ici. Il y a beaucoup de vignes, beaucoup de coteaux qui montent donc le long du lac Léman. C'est absolument sublime. Les villes traversées, les localités traversées sont non moins sublimes, pleines de couleurs, voilà, les maisons peintes en rouge, en jaune, en bleu, des volets verts, bref, c'est absolument sublime. Ça donne envie de venir passer ces vacances ici, même si le peloton n'a pas le temps de profiter du paysage, parce que ils ont abordé les premières rampes de cette première difficulté groupées et surtout en file indienne. Ça roule très très vite devant, évidemment, pour essayer d'attraper la bonne échappée du jour. Pour l'instant, je suis pas sûr que ça soit tout de suite le cas.
Très bien. Est-ce qu'il y a autant de monde qu'au Danemark, en Belgique et qu'en France aujourd'hui? Est-ce que les Suisses sont fans de vélo et fans du Tour de France, Arnaud?
Ah bah oui, il y a, alors peut-être un petit peu moins, mais non, le public est quand même là, présent au rendez-vous. On a mis des tables, on a sorti des tabourets pliables qu'on a dépliés évidemment au bord de la route. On a mis un petit verre à ballon et on a mis le petit vin blanc qui va bien à l'intérieur du verre. On est venu quand même relativement nombreux là du côté de la Suisse pour admirer le peloton du Tour de France, même si c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'épreuves, hein, qui passent par ici, notamment le Tour de Romandie qui a ses petites habitudes sur ces terres, donc voilà, il y a quand même du cyclisme qui passe par ici, mais le Tour de France, c'est pas tous les jours, en revanche, qui passe le long du lac Léman. Donc forcément on est venu encourager les quelques Suisses de ce peloton. Il y a Bisseger, Dillier, Kung, et le dernier, il m'échappe, mais il y en a un quatrième, je crois.
Jérôme va le trouver peut-être.
Je suis en train de le rechercher justement.
Le quatrième Suisse,
en plus,
quatrième,
c'est le plus évident,
Suisse.
Kung, t'as dit qui? Kung, Bisseger,
Dillier,
et donc Dillier. Et il y en a un quatrième, c'est presque le plus évident.
Tu le connais?
Non, mais il va pas les avoir, ces papiers. Hein. À chaque fois qu'on lui pose une question, c'est pas possible. Hein. C'est incroyable. C'est pourtant simple, Jérôme.
Marc Hirschi, évidemment.
Ah, désolé, oui, je voulais pas te mettre dans la nasse.
Oh non, oui,
non, il faut dire qu'Hirschi, on ne le voit pas beaucoup à l'avant depuis le début du Tour de France. Hein. Ce garçon qui, rappelez-vous, avait sauté aux yeux de tout le monde il y a deux ans au départ de Nice avec cette bagarre avec Julien Alaphilippe pour la victoire d'étape, qui ensuite avait confirmé et qui là cette année traîne sa misère. Et c'est pas que depuis cette année, c'est depuis qu'il a changé d'équipe, me semble-t-il.
Oui, c'est un peu plus dur depuis qu'il a rejoint UAE. Là, il a pas mal de problèmes de genoux. Elle a subi une opération début d'année ou fin de l'année dernière, je sais plus. Donc un peu plus compliqué pour Marc Hirschi. On verra au Tour de Suisse, il était pas mal, mais on se rappelle qu'il a été positif au Covid, hein, aussi au Tour de Suisse. Donc voilà, est-ce qu'il est encore pas complètement récupéré? Alors le seul avantage peut-être de ceux qui ont été positifs au Covid, c'est qu'ils sont peut-être un peu plus tranquilles sur ce Tour de France et avec un petit peu moins de stress. Lui, bon, voilà, il est pas au top de sa forme. On verra ce que ça donne. Alors qu'on va Thibaut Pinot pointer le bout de son nez.
Tiens, Thibaut Pinot est là aujourd'hui. Que se passe-t-il en tête de peloton? Il est en train d'accélérer, Pierre-Yves.
Oui, exactement, avec un petit groupe qui s'était formé devant. On est à 100 mètres maintenant du sommet et ça bouge sur à l'avant comme à l'arrière d'ailleurs, parce qu'il y a des garçons qui ont du mal à suivre. Castroviro est en tête devant Thibaut Pinot pour aller chercher les points de la montagne. Pour faire quoi? Patrick Conrad est là également, Izagir et Mühlberger. On va voir qui va passer pour aller chercher un petit point hein, seulement. On le rappelle, hein, c'est une côte de 4e catégorie, la côte de Bellevue. Pour l'instant, c'est Castroviro qui est en tête, qui se retourne derrière. Il voit que ça ne suit pas tellement. Il a juste dans sa roue un coureur pour le moment. Et à 155 km de l'arrivée, eh bien, c'est Patrick Conrad maintenant qui prend le relais en tête du peloton.
Voilà, peloton groupé. Hein. Il y a personne pour l'instant d'échapper.
Non, non,
ça. Ouais, Cyril, tu voulais ajouter un petit
peu. Oui, depuis quelques temps, enfin, depuis quelques kilomètres, on voit l'équipe Ineos très actif en tête de peloton, puisqu'on a eu les accélérations de Van Barle et maintenant de Castroviro. Je pense que l'équipe Ineos n'a rien à perdre dans une course de mouvement, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, je pense.
Ok, alors quelle tactique faire? Essayer de harceler l'ami Pogacar en partant à 1, à 2, à 3, essayer d'isoler Pogacar pour la dernière ascension du jour, c'est comme ça qu'il faut faire?
Surtout isoler Pogacar de ses équipiers. Mm-hmm. Plus ça montera vite, plus on usera les équipiers de Pogacar qui ne sont pas...
HK isolé, il n'est pas évident non plus. Hein,
oui, mais bon, s'il vous en reste plus qu'un, n'oubliez pas que les Ineos, pratiquement, ils sont plus de 3 à être encore compétitifs pour le classement.
Bah pour l'instant, les coéquipiers de Pogacar, ils font rien, ils suivent les mouvements. Pour l'instant, tant qu'il y a la castagne, eux, ça leur convient bien. Ils n'ont pas à maîtriser le peloton. C'est pas plus dur pour eux que pour ceux qui attaquent à l'avant. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à filtrer un peu le groupe de tête, le groupe d'échappée qui se formera, pour pas qu'il y ait un coureur dangereux au classement général qui se glisse dedans.
Et pour l'instant, toujours aucune échappée. Ça part, ça tente de partir un coin de la formation Movistar, là, qui est en train d'essayer de prendre la poudre d'escampette. Va-t-il être pris en chasse derrière? Ça se regarde, ça se retourne. Christophe, c'est dur ces moments-là avant que l'échappée se forme. Hein.
C'est extrêmement tendu, c'est clair. On voit très bien que tout le monde a besoin de souffler. Néanmoins, j'ai un œil très très attentif avec Thibaut Pinot qui filoche les coups, là, qui file les coups, qui lève le cul. Je crois qu'il a vraiment envie de se rassurer et vraiment de se retrouver à l'avant. Par contre, c'est pas fait, parce qu'on voit que tout le monde relance derrière tout le monde. C'est compliqué, mais tôt ou tard ça va péter. On est sur des parties montantes jusqu'à Châtel-Saint-Denis, et après il y aura le col des Mosses si d'aventure ça se faisait pas au préalable.
Oui, parce que c'est pas tout de suite hein,
quand on regarde le profil, même si on était au sommet de la côte, ça continue hein, quand même à monter, et c'est pour ça qu'il y a des garçons qui continuent à accélérer à l'avant avec Jorgensen et Connor Swift là, qui demandent un relais dans sa roue. On aperçoit Dylan Teuns, Dylan Van Barle également, Patrick Conrad. Donc c'est un peloton à la file indienne actuellement, avec des garçons qui souffrent à l'arrière, et notamment, on le disait tout à l'heure, Marc Hirschi dans un petit groupe, presque un groupe étau qui est en train de se former avec Frédéric Frison. Vuillermo également est à l'arrière, et Pierre Roland.
Voilà, Pierre Roland qu'on espérait... Oui, Van Der Poel encore une nouvelle fois à l'arrière, hein, Mathieu Van Der Poel.
Ouais, et Florian Sénéchal également.
Ouais, et Ben O'Connor aussi.
Et Soler, il me semble. Hein, Soler a un coéquipier assez important pour Pogacar. Ça me semble que c'est lui qui est dans ce petit groupe d'attardés. Si ça se relève pas, ils vont avoir un peu de mal à rentrer. Alors une fois que l'échappée sera partie, je pense que le peloton va se poser un petit peu et ce groupe-là devrait réussir à rentrer, mais c'est quand même pas bon signe pour Soler et pour l'équipe de Pogacar.
Exactement, ben peut-être que la tactique commence déjà à porter ses fruits, Cyril, avec Hirschi, Soler, peut-être en difficulté, voilà, qui est pas mal pour la formation Ineos et pour les adversaires de Pogacar.
Oui, tout à fait, mais je pense que c'est ce qu'il fallait faire pour déstabiliser l'équipe UAE. On sait, on le dit depuis plusieurs jours, alors des fois le lendemain on dit « Ah, mais aujourd'hui ils ont été à la hauteur ». Oui, sur une course d'attente, de défensive de loin, comme on a pu le voir hier ou avant-hier, mais quand on va monter, et c'est le cas actuellement, on monte le rythme de 1 ou 2 octaves, eh bien ils n'arrivent plus à chanter.
Et effectivement, les UAE ne chantent pas, mais Pogacar, le coq de la basse-cour du Tour de France, lui continue de chanter. Ne vous inquiétez pas pour lui, tout va bien. Il a encore pris quelques secondes hier à Vingegaard en terminant 3e de l'étape, 4 petites secondes de bonification qui, ouais, ça mange pas de pain d'aller récupérer ce genre de choses. Toujours donc le peloton en file indienne, 152 km de l'arrivée, Arnaud, ça ne sort pas et donc tu es toujours devant le peloton, toi, hein.
Et je suis toujours devant le peloton, absolument, Christophe, ça sort pas. Et comme le précisait Pierre-Yves, effectivement, par contre, ça continue la pente à s'accentuer après donc ce grimpeur. Voilà, après on va quand même rentrer dans une partie un tout petit peu plus plane et qui sera peut-être plus favorable à voilà à la mise en place, pourquoi pas d'un groupe dans quelques kilomètres. On va prendre la direction de Berne et de Fribourg, c'est écrit sur les panneaux. Je vais vous laisser la main en attendant d'avoir des coureurs sous le nez.
Et les coureurs qui tentent une nouvelle fois de partir avec un homme de la formation B&B Hotel qui essaye de partir, oui, cette fois-ci.
Alexis Goujard. Qui tente une nouvelle fois. Il est en forme en ce début de Tour de France, mais pour le moment, c'est compliqué. Mats Pedersen se relève là, mais il y a des garçons qui suivent comme des wolves.
Et Kamna surtout. Kamna, on sait que quand il sort, c'est pas pour rien. Voilà, il a rejoint Goujard et De Wulf. Voilà, lui qu'on sait. On l'a pas encore vu.
C'est la bonne roue à prendre.
C'est la bonne roue à prendre. Si vous êtes dans le paquet, que vous le voyez sortir, faut pas traîner pour se mettre dans sa roue.
On rappelle qu'il y a 48 heures, il avait bien failli aller chercher la victoire d'étape. Il lui a manqué quoi? Une centaine de mètres à l'arrivée.
75 mètres, il lui a manqué. Et là, il vient de passer un coup de semonce à De Wulf qui avait pris un relais et puis qui était en train de se relever. On l'a vu crier pour lui dire mais vas-y, continue, c'est pas le moment de te relever. Résultat, c'est en train de revenir derrière, donc c'est pas encore la bonne à mon avis.
Voilà, alors que on voit le portrait de Charlie Chaplin qui a fini ses jours au bord du lac Léman. Et un portrait qui a été réalisé par un artiste français. C'est sublime, avec une différence de tonte, de pelouse, de hauteur de tonte. Et là, c'est plutôt bien réussi. Hein. Magnifique travail.
Il y a un joli musée d'ailleurs dans sa maison encore sur les bords du lac pour découvrir Charlie Chaplin. Décédé, on le rappelle, un soir de Noël, comme un petit pied de nez à l'histoire, Charlie Chaplin. Donc cet hommage magnifique, effectivement, dans les prairies du côté du lac Léman, du lac de Genève, suivant...
Ouh là là, malheureux, lac Léman, tu vas faire des ennemis,
suivant,
là.
Suivant ce que vous voulez dire.
Alors, lac Léman, ça va très bien, ça convient à tous les Suisses.
Le lac de Genève, c'est uniquement à Genève qu'on dit ça.
Oui, voilà, c'est les Genevois qui disent, c'est leur lac, c'est le lac de Genève. Mais si vous dites ça à des Valaisans ou des Vaudois, ils vont pas être contents du tout.
Le lac Léman, ça leur va.
Le lac Léman, ça va un peu pas tout le monde. Vous savez, c'est comme le Mont Blanc. Le Mont Blanc est français, mais faut pas dire ça à des Italiens. C'est la même chose.
Très bien. L'œuvre donc de Charlie Chaplin, ça s'étend sur 10 000 mètres carrés et c'est une œuvre du français Franck Bonneau. Voilà pour les petites explications si vous avez vu ces images, vues d'hélicoptère ou vues de drone. Il est 13h38, un nouveau top course avec toi, Pierre-Yves, et ensuite on va accueillir notre premier invité ici dans le camion RMC, le top course.
Ça bagarre toujours, 150 km encore à parcourir et il y en a déjà 43 de fait, mais la bonne n'est pas encore partie et Thibaut Pinot aimerait bien être dans celle-là. Il remet un coup là à l'avant du peloton pour rejoindre les 6-7 garçons qui sont partis devant avec notamment Trapnik, Izagir et encore Patrick Conrad et Bonamour, très actifs en ce début d'étape. 150 km tout rond à parcourir, le plus dur est à venir, on le rappelle, avec de grosses difficultés en direction de Châtel.
Il est 13h38, vous êtes sur RMC, sur la route du Tour de France, 9e étape aujourd'hui, l'entrée dans les Alpes. Nous sommes toujours en Suisse et nous rentrerons au pays dans quelques kilomètres. A tout de suite sur la route du Tour.
RMC Intégral Tour.
Christophe. Christophe Cessieux.
Jusqu'à 18h, l'intégrale Tour de France, comme tous les jours, jusqu'au 24 juillet, profitez-en. Et on en profite, nous on s'en met plein les yeux aujourd'hui avec cette magnifique étape. On a quitté les bords du lac Léman, on est entré dans les terres du canton de Fribourg, que le peloton va bientôt traverser. Et puis ensuite, on fera un rapproché du lac à nouveau, et pour la dernière montée. Et de nouveau, nous franchirons la frontière pour terminer l'étape à Châtel, dans le domaine des Portes du Soleil. Il reste encore un peu plus de 148 km à parcourir. Est-ce que la situation s'est décantée, Pierre-Yves ?
Mais non, toujours pas. Et pourtant, ce n'est pas Thibaut Pinot qui s'économise en ce début d'étape. Il fait tout pour qu'il y ait du ménage et que la bonne échappée se forme. C'est peut-être le cas. On va voir ça. Ils sont une douzaine à l'avant à essayer de se faire la malle et de fausser compagnie au peloton. Mais ça va être compliqué. Il y a beaucoup de monde encore dans ce groupe et peut-être que le peloton va réussir à revenir.
Et Thibaut Pinot qui prend les relais, Cyril, il a l'air motivé aujourd'hui. Thibaut Pinot a pris une journée catastrophique hier, on le rappelle, hein, avec notamment ce coup de poing d'un assistant qui a voulu tendre une musette à Pedersen et qui a heurté le visage de Thibaut Pinot, qui avait également chuté quelques minutes auparavant. Et là aujourd'hui, il a retrouvé sa gueule de winner, sa gueule de coureur.
Oui, il est très attentif depuis le départ, mais on avait déjà vu hier, il faut pas se tromper, c'est que après les différents problèmes qu'il a rencontrés, lorsqu'il est revenu sur le peloton, moi je trouvais qu'il avait quand même un beau coup de pédale, il y avait de l'énergie, il y avait de toute façon visiblement une bonne condition physique de Thibaut hier quand il revenait sur le peloton. Vous savez, c'est des choses qui se sentent à notre niveau, hein. Et là aujourd'hui il a été très attentif, toujours en deuxième rideau, et puis là depuis 3-4 kilomètres on le voit beaucoup plus proche de la tête, et finalement il est sauté sur ce coup. Est-ce qu'il ce sera le bon ou pas, je ne sais pas. Il y a également Barguil qui est présent dans ce groupe, et il me semble également Bonamour.
Eh oui, ils ont une petite vingtaine de secondes, et ça creuse. Ouais. C'est peut-être la bonne. Enfin, c'est la bonne. Ben, c'est une bonne nouvelle avec Barguil et Pinot dans ce groupe. C'est plus
ça
pas
ressort,
mal.
Ça ressort.
Ouais. Parce qu'ils sont 15 dans le groupe de tête. Alors après, toutes les équipes sont peut-être pas encore représentées. On va voir. 27 secondes d'avance pour ce groupe de 15 unités où figurent notamment, on le disait, Thibaut Pinot, Warren Barguil, Jesper Stuyven, Franck Bonamour ou encore Patrick Conrad. Voilà, ils sont 15 devant.
Christophe Moreau nous avait donné la victoire.
Ah non, il n'est pas dans le groupe de vente, Christophe Moreau.
Non, il n'est plus.
J'ai pas regardé, je ne le vois pas.
Il est dans le groupe étau du camion RMC. Christophe, Thibaut Pinot, évidemment, un gars de chez toi ou pas très loin, un gars de la Haute-Saône. On a vu l'enthousiasme l'autre jour déployé autour de lui. Est-ce que c'est son jour ? Est-ce que ça peut être son jour ?
Ça peut être son jour, parce que quand vous avez traversé une journée comme hier, plutôt catastrophique, on a envie de se relancer. C'est de la plus belle des façons, c'est de filer les coups, d'aller à l'avant, d'être échappé. C'est désormais le cas, en tout cas j'espère. Et en tout cas, une arrivée juste parfaite pour lui. On est arrivé au sommet, à plus de 1300 mètres d'altitude. Donc, tous les ingrédients. Il y a 10 ans, il avait fait une mauvaise montée de la planche des Belles-Filles. Il avait gagné à Porrentruy le lendemain. Là, ce sera peut-être deux jours après.
Ah ben oui. Alors Christophe, tu portes aujourd'hui un magnifique polo avec le nom de ton équipe. On rappelle que tu es manager d'une équipe qui a vu le jour il y a quelques mois seulement, Philippe Wagner Cycling. Et donc le patron en plus est venu avec toi aujourd'hui. T'as emmené le patron avec toi. Il est avec nous. Bonjour Philippe. Ah, on va allumer.
Bonjour à tous.
Si vous nous faites une guimard, ça...
Il m'a dit faites-moi quelque chose pour démarrer. J'ai fait ça et ça commence bien.
Philippe, vous aussi, vous êtes de la Haute-Saône.
Voilà, je suis un Haussaunois effectivement. Et puis on n'est pas loin de nos amis Haussaunois qui courent aujourd'hui. Et...
Ah oui, Thibaut Pinot pour Thibaut vous, Pinot, ça représente quelque chose pour tout le département.
Hein. Exactement, ça fait vibrer. Et puis on le voit à l'avant, donc ça fait d'autant plus vibrer.
Bah voilà. À quand Thibaut Pinot chez Philippe Wagner Cycling? Peut-être dans quelques années, sait-on jamais. Bon, il sera peut-être un peu vieux, quoi.
Le chemin se fait, les opportunités de la vie, et puis voilà, les expériences. On est aujourd'hui avec Christophe, on ne se connaissait pas il y a encore 8 mois, et aujourd'hui on construit quelque chose, donc voilà, tout simplement.
Donc vous êtes un gros industriel dans la charcuterie du côté de Brush, c'est
ça ? On a une grosse base aérienne à côté de chez nous, et la base aérienne, ils disent, on a une grosse entreprise de charcuterie à côté de chez nous, et nous, quand ça fume, c'est leur repère pour atterrir. Donc,
d'accord.
voilà. Donc, et on est à Brush, les Luxeuil, effectivement. Et c'est une entreprise qui fait environ 100 millions de chiffre d'affaires. On est 350 salariés.
D'accord, 100 millions de chiffre d'affaires. Donc vous pouvez donner plein de sous à Christophe Moreau pour construire son équipe. C'est ça le but du jeu, non ?
Je lui ai appris à économiser pour dépenser plus après.
Très bien. Et qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un industriel à créer une équipe cycliste, à mettre des sous là-dedans ? C'est la passion du vélo ou c'est aussi pour communiquer et pour faire vivre votre entreprise ?
En fait, je crois que c'est la conjonction de tout en réalité. Moi, j'ai toujours fait du vélo, pas comme Christophe. On a démarré en fait dans la même fédération ensemble. Et j'ai toujours aimé, j'étais organisateur aussi de courses. Et puis après, ben, le temps s'est passé, j'ai eu ma fonction de dirigeant d'entreprise. Et quand j'ai lancé la marque Phil Wagner, qui est complètement différenciante de toutes les autres produits de charcuterie avec des ingrédients 100% naturels, je me suis dit, il faut une vraie réassurance. Et mon nom est la vraie réassurance. Aujourd'hui, je suis le garant des valeurs de la marque. Et je me suis dit, le meilleur moyen, c'est d'aller dans le vélo. Et là, on va se faire connaître et on va démarrer. Et on a commencé cette année pour la première fois en National 1.
Ouais. C'est intéressant pour un chef d'entreprise. Vous espérez des répercussions, des conséquences importantes pour votre marque, justement, en investissant dans le vélo ? Alors, pour l'instant, investissement sur une équipe amateur, mais qui est appelée à se développer. On en parlait avec Christophe il y a quelques jours, puisque vous avez déposé un dossier pour devenir professionnel dès la saison prochaine et peut-être gravir les échelons comme ça dans les années à venir.
On a fait enregistrer un petit spot à Christophe l'autre jour et il a dit, dans la bouffe, c'est comme dans le sport, pas de concession. Eh bien, nous, on n'a pas fait de concession avec notre marque. Et franchement, tous nos coureurs qui ont mangé la merguez à la veille d'une course, ils ont gagné.
Je ne sais pas si c'est bien indiqué quand même de manger de la charcuterie avant de faire les courses. Christophe, quand tu étais coureur, c'était surtout des pâtes. Hein, des pâtes le soir, des pâtes le matin, des pâtes à midi. Enfin, pas à midi, mais des gels à midi plutôt, parce qu'à midi, vous êtes sur le vélo.
Ouais, bien sûr. Et puis peut-être du jambon blanc. On en fait du très bon également. Donc ça tombe bien.
D'accord. Très bien. Philippe, le but à terme, c'est quoi ? C'est de voir votre équipe un jour. Je vous voyais tout à l'heure regarder tout ça avec des yeux d'enfant. Presque. C'est génial de voir la machine du Tour de France.
Je suis vachement à l'aise dans mon métier de chef d'entreprise, la moindre, donc je viens dans un monde que je connais peu. Et j'ai dit toujours, dans la vie, le plus compliqué, c'est de prendre le chemin. En fait, c'est ça le plus dur. Une fois qu'on l'a pris, c'est pas se donner de limite. Et les gens que j'ai réunis autour de moi, je leur ai dit, on se donne pas de limite. On avance ensemble, on va construire et co-créer quelque chose, et on va voir jusqu'où et sans limite de chemin. L'essentiel, c'est que chacun, à la fois la marque, à la fois les commerciaux, à la fois le projet d'entreprise, à la fois le club, avance ensemble. Ouais. Et derrière, on va avancer.
Très bien. Budget d'une équipe pour le Tour, ça pourrait être à hauteur de votre bourse
En fait, pour l'instant, on a pensé passer Conti Pro dans 2 ans. Ouais. On s'est dit, avec un petit budget, Christophe a déjà donné des montants, donc je vais répéter les mêmes, parce que sinon, on n'est pas concordant. Et ça, c'est possible. Je connais beaucoup de monde. Je connais des bons industriels qui sont intéressés par le projet. Et puis, c'est aussi un projet franc-comtois. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il n'y a pas d'équipe pro en Franche-Comté.
D'accord. Donc, ça veut dire que le département peut être derrière vous. Vous pouvez fédérer d'autres chefs d'entreprise autour de votre marque.
Totalement.
C'est le but du jeu.
C'est aussi le but du jeu.
Cyril, tu as été patron, toi, d'une équipe aussi, le Vélo Club de Roubaix, qui est également une grosse équipe aujourd'hui, qui a débuté chez les amateurs. Avec quel budget on peut espérer exister dans ce genre de milieu ? Ben,
plus vous avez de budget, plus c'est facile.
Ouais, évidemment.
Mais sur des contis, il faut compter au minimum, on va dire 1,5 million, entre 1,5 million, 1,7 million. Si vous avez 2 millions, c'est mieux.
Voilà, par an, évidemment.
Hein. Oui, bien sûr, pas par mois.
Ouais. Et le budget d'une grosse World Tour, c'est combien ?
C'est vous déplacez la virgule d'un rang déjà, puis vous multipliez par 2 le premier chiffre.
Ah, d'accord.
Entre 20 et 60 millions.
Voilà.
Ouais, 60 millions. Ah, lui, il sait compter.
Ouais. Bah, hein? Ouais. Est-ce que
Philippe. Plus grosse, ouais.
Est-ce que Philippe.
Non, mais pour le retour, il y a d'autres échéances, d'autres échelons. On l'a évoqué entre Conti à 1, 6, 1, 7, voire 2 millions. Et puis Conti Pro, après, pour autour des 4 millions et demi, 5 millions. C'est quand même plus abordable. Ouais. Il est bien évident.
Ouais. Alors, vous en êtes où du recrutement ? Parce que là, vous êtes encore une structure amateur, mais vous envisagez justement de passer pro. Il faut déjà faire son marché. Est-ce que vous êtes sur le coup, Philippe,
Avant de parler des recrutements, je vais faire une petite boutade parce que Christophe, il annonce des montants, mais il sait aussi qu'il a une fonction, c'est qu'il est avec moi pour rechercher le sponsor. Donc ouais. Plus il met des montants élevés, plus son boulot va être important.
Et là, il se met la pression tout seul, quoi.
Ouais, top. Là, je note tout ce qu'il a dit. Hein. C'est la réalité, Philippe. Donc sur le recrutement, je pense Christophe, c'est son job. Il connaît plus de monde que moi dans ce milieu. Mais il m'a déjà donné des noms à l'oreille comme ça, donc je pense Christophe.
Bon, on doit construire absolument une nationale 1 l'année prochaine avec un dossier qui sera déposé pour être continental ou continental pro au 30 juin à la devant la ligue. Ça c'est la règle, c'est ce qui est demandé. Néanmoins, il nous faut être dans les 5 meilleures équipes amateurs l'année prochaine pour construire, donc recruter dès maintenant les meilleurs amateurs qui ne seront pas pro l'année prochaine et pouvoir faire perdurer et montrer aussi la marque et la valeur sportive de notre équipe même au milieu amateur, pour être crédible chez les professionnels ensuite.
Les meilleurs amateurs, ce sont des jeunes ou on peut aussi récupérer d'anciens pros qui sont redescendus d'un niveau mais qui gardent un très bon niveau justement?
Oui, on peut effectivement imaginer un capitaine de route, un lieutenant qui pourrait aussi gérer et accompagner nos jeunes et nos jeunes espoirs. On a l'obligation d'avoir des espoirs dans notre effectif de 14 coureurs. Donc c'est clair qu'il faut un recrutement très rigoureux pour pouvoir faire une belle saison l'année prochaine et surtout crédibiliser notre action et notre demande de dossier professionnel.
Eh bien messieurs, on vous souhaite bon courage Philippe, hein, et vous reviendrez nous voir. Enfin, je pense que vous ne nous regarderez même pas quand vous serez en World Tour dans quelques années. Vous passerez comme ça devant le camion sans nous dire bonjour.
En tout cas, merci pour votre sympathie et ces moments, parce que c'est vraiment avec grande sympathie que ces échanges se font.
Merci beaucoup, merci. Philippe Wagner, d'être venu dans le studio RMC. On va garder votre manager quelques heures. Il est bien là, il connaît un peu le Tour de France quand même, ce garçon-là. 13h51, on revient sur la route du Tour de France, 142 km encore à parcourir. Est-ce que c'est sorti, monsieur Leroux, le top course?
C'est sorti deux fois même, puisqu'il reste 142 km à parcourir et qu'il y a un gros groupe à l'avant avec 15 hommes que je vais vous citer. Castroviejo, Bob Jungels, Patrick Conrad, Carlos Verona, Simon Geschke, Luis Leon Sanchez, Thibaut Pinot, Kobe Gossens, on retrouve également Joseph Dombrovski, Rigoberto Urán est dans ce premier groupe, lui qui est retardé au classement général, 16e à 3 minutes 24, Warren Barguil pour les Français est là également, Jasper Stuyven, Guy Nive, Hugo Hull et un autre Français, Franck Bonamour de l'équipe PNB. Mais derrière, un autre groupe est sorti avec du beau monde, Brandon McNulty, Wout Van Aert, Benoît Cosnefroy, Nils Polit, Jon Izagir et deux coureurs de l'équipe Total Energy qui sont à l'initiative de cette sortie, Edvald Boasson-Hagen et Pierre Latour. Ils sont à 30 secondes de ce groupe à l'avance, et 7 hommes, et le peloton lui est à 54 secondes. Alors Wout Van Aert va peut-être chercher quelque chose qui se situe bientôt dans 5 km maintenant. C'est le sprint de Sem Sal, mais je pense qu'il est sorti un petit peu trop tard et qu'il ne va pas réussir à rentrer sur le groupe devant pour aller chercher des points.
Avec
on va
lui,
voir ça, mais on peut lancer lui, les paris.
Avec lui, on ne sait jamais.
RMC Intégral Tour.
Ouais, Wout Van Aert, c'est un peu tard peut-être pour aller chercher des points. Est-ce qu'il a encore besoin d'aller chercher des points d'ailleurs pour ramener le maillot vert sur les Champs-Élysées dans deux semaines, messieurs?
Bah, pour moi,
pour toi c'est fait, mais ça fait un moment.
Oui, ouais. pour moi c'est fait, sauf bien sûr toujours oui. la même phrase.
Abandon,
si,
Covid, voilà. Etc.
À la pédale aujourd'hui, il a plus d'adversaires puisque même si on va dire un de ses adversaires directs allait gagner une étape, de toute façon il serait quatrième, cinquième ou sixième, et le gap de points perdus, gap perdu, ça va peut-être pas ensemble ça, mais les points qu'il perdrait ne le mettrait pas en danger. N'oublions pas qu'il a 115 points d'avance à l'instant précis où je vous parle.
115. Ça, c'est sur Jakobsen.
Ouais.
Et le troisième du classement, le garçon qui est toujours dans les classements, dans le podium, c'est Tadej Pogacar. Même au maillot vert, il est troisième.
Voilà, Van Aert donc avec une vingtaine de secondes de retard sur le groupe ouais. De devant, et qui ouais, est ramené par les coureurs de la formation Total Direct Energy. Le sprint, c'est dans combien de kilomètres?
5 kilomètres.
5 kilomètres, oui.
Ça peut être un peu juste.
Avec Van Aert, tout est possible. Oui, il ne prend pas beaucoup de relais d'ailleurs. Il se laisse mener pour l'instant.
Parce qu'il ne roule pas.
Ouais.
Là, ils sont revenus à une vingtaine de secondes. S'il voulait y aller, là, il se décale sur la gauche. Il met un coup de gaz et il rentre en 250 mètres.
ils sont dans la voiture.
Edvald Boasson-Hagen. Bah ça y est, regarde, il est en train de se dresser sur les pédales, me semble-t-il. Il est parti sur le côté droit, à moins que j'ai eu une illusion d'optique, mais évidemment, le réalisateur a changé de plan. Dès qu'il se passe quelque chose, il change de plan. C'est souvent le cas, d'ailleurs, depuis le début de ce tour de France.
Edvald Boasson-Hagen de l'équipe Total Energy n'arrive pas à suivre le rythme de ce petit groupe.
Ouais, mais c'est logique. Il s'est complètement mis à la barre pour essayer de ramener Pierre Latour.
Pour revenir, effectivement. Et maintenant, et voilà. C'est Wout Van Aert qui emmène ce petit groupe où ils sont encore 5. C'est dur aussi pour Benoît Cosnefroy. Non, ça va, il va réussir à tenir. Ils sont 6, donc à une trentaine de mètres.
Ils s'accrochent tous dans la roue de Van Aert. Christophe, on sent que c'est vraiment difficile hein, de rester dans la roue du maillot vert.
Bah, bien sûr, en plus, tu avais très très bien vu. Il a vissé un gros coup dès qu'il a vu l'arrière des voitures de l'échappée. Mais écoute,
t'as pas compris, il m'a entendu.
Mais oui, mais il a raison. Par contre, après, le grand nombre dans l'échappée risque de mettre un petit peu la zizanie
ouais.
là-dedans.
Ouais, parce ouais. que trop de monde. C'est quoi le nombre idéal pour une bonne échappée, pour qu'elle ait le plus de chances d'aller au bout?
8-10.
Oui, c'est le nombre de coureurs qui va au bout.
Oui, évidemment. Non, mais est-ce qu'il y a une... Oui, oh.
Non, il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle.
C'est la composition de l'échappée même. C'est les écarts au classement général.
Non, mais pour que ça s'entende bien, il faut que toutes les équipes à peu près soient représentées.
Entre 6 et 10 maximum.
Pas voilà. trop de gros leaders, évidemment. Pas de garçons.
Entre 6 et 10, c'est ça. Après, c'est vraiment quand l'équipe Sky est arrivée, c'est eux qui ont commencé à laisser partir des gros groupes. Moi, j'ai fait des échappées. On était 30. C'était même plus une échappée. C'était limite un petit peloton qui était à l'avant. Puis une fois, j'en avais parlé avec Bradley Wiggins. J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, mais en fait, plus il y a de monde, moins ça s'entend et plus c'est facile à contrôler. Parce qu'il y a toujours des coureurs qui vont sauter des relais. Les autres, ça va les énerver. Donc, ils se relèvent, etc. Ils disent, en fait, quand il y a du monde, ça gêne pas du tout. Et plus il y en a, mieux c'est pour nous. Donc, vaut mieux avoir un gros groupe d'échappés qui s'entend mal qu'un petit groupe de 6 à 10 qui s'entend très bien.
Wout Van Aert qui a réintégré le groupe de tête, tranquillou, en donnant deux coups de pédale. Exactement ce que tu avais dit.
Ce que j'ai dit à 5 secondes.
Et derrière, on s'est dépouillé pour essayer de rester dans sa roue. Ce garçon est tout simplement phénoménal. On en parlait hier, c'était l'un de nos débats. Tu n'étais pas avec nous hier soir, Christophe. Mais c'est vrai que cette domination du maillot jaune, du maillot vert, ce sont vraiment deux coureurs qui sont au-dessus du lot. Et on espérait qu'il y en ait d'autres. Un Mathieu Van Der Poel qui aurait pu rivaliser cette année avec Van Aert, ou encore des garçons pour le classement général. Mais ils dominent, ils écrasent tout sur ce Tour de France, ces deux-là.
Oui, et puis dans le sprint pour le maillot vert, dans les côtes, dans les cols pour le maillot jaune. Mais en plus, le maillot vert, souvenez-vous, l'année dernière, comme il a franchi les deux ascensions du Ventoux, excusez du peu, il a gagné cette étape et remporté de main de maître une ascension de 21 km. Aujourd'hui, c'est pas lui le plus mal loti pour alors aller penser, imaginer, remporter l'étape du côté de Châtel.
Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'il prenne les points du maillot vert et puis que derrière, il se relève pour protéger aussi ses leaders?
Non, nous dit Cyril.
Ben non, attendez, il est dans une position avantageuse devant. S'il y a une grosse castagne derrière là, et que ces deux leaders se retrouvent mettent en difficulté Pogacar, attendez, ils ont un méchant relais.
Oui, exactement. Tu as raison. On l'avait pas vu dans ce sens-là, mais
c'est pas idiot hein, qu'il soit là.
Et il roule.
Et puis vous avez vu comment il est rentré. Il n'y a pas de cran à la poignée. Hein.
Voilà. Et est-ce que nos Français Barguil, Latour ou encore Benamour et Pinot vont réussir à suivre? On verra ça dans quelques instants. 138 km de l'arrivée et désormais ce groupe compte 1 minute 29 d'avance sur le peloton maillot jaune. 13h58, on se quitte quelques instants, on laisse passer les infos de 14h et on revient pour la suite de cette 9e étape du Tour de France en direction de Châtel à travers les magnifiques paysages helvétiques. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.